marmaille bonne à la fine parfait. Sac tout un zoté promé. La salle vint sans canot malheur. Et puis ça vint costaud en morgue. Elle commence un anneau jusqu'à la France.
Oh la France, oh la France, oh la France, oh la France.
N'a point longtemps ça l'a démarré. Mais se mentit doucement. De temps il vient plus frais. Un jour la neige voit comment tomber. N'a connaître douleur. N'a connaître souffrance contre nos pays. Ce que c'était semble la France.
Oh la France, oh la France, oh la France, oh la France. Bateau fou, tout ça banaille à la nous, mon pays bateau fou, tout ça banaille à la nous, mon pays bateau fou, tout ça banaille
à la nous. Pied bois, pays frais, place en place, il décide de pousser, ici de là-bas, Douillard de France, il charge la casse la branche, il charge la casse la branche, oh la France,
oh la France, oh la France. Oh la France, oh la France.
Mon pays bateau fou, Sabana et Malanou. Mon pays bateau fou, Sabana et Malanou. Mon pays bateau fou, Sabana et Malanou. Débarqué, banal a dit, il faut ni def, ni de cheveux, ni éclaircie, ni de peau. Faut pas un patron gros blanc, la pas trop ennuyé. Pour la France,
pour la France, pour la France, pour la France, pour la France.
Mon pays. Bateau fou, où ça va là et va là nous, mon pays bateau fou, où ça va là et va là nous, mon pays bateau fou, où ça va là et va là nous. Aguette, dit à nous, aguette, aguette, le sablé en sang, la mer, les rouges, pour le sang, la racine volcan,
il finit à la mer rouge, pour le sang, la racine volcan, il finit à la mer rouge, pour le sang, la racine volcan, il finit à la mer rouge, mon pays bateau fou, sa banane ira la nous, mon pays bateau fou.
Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 MHz avec Lucie, Julien, Nadia et Bilal pour parler de l'Assemblée Générale contre les lois anti-immigration de Darmanin et de la manifestation qui aura lieu samedi 29 avril, place Arnaud Bernard à 15h. Donc, vous pouvez un petit peu expliquer le contexte de cette chanson ?
Alors du coup, cette musique qui s'appelle Bateau Fou de Ziska Khan, c'est une musique qui raconte l'histoire des enfants réunionnais déportés dans la Creuse. Il y a eu des enfants réunionnais de Madagascar aussi. Et du coup, qui ont eu lieu avec les politiques de Michel Debré. Et on compte à peu près 2100 enfants et jeunes, ces personnes qui ont été déplacées de force de leur île jusqu'à l'Hexagone avec des motifs plus ou moins fallacieux et notamment le fait que les parents ou les personnes qui s'en occupaient ne pouvaient pas lire, étaient au chômage, etc. Et ces personnes ont été utilisées comme de la main d'œuvre bon marché en France. Et aujourd'hui, on est sur des politiques de reconnaissance depuis François Hollande de ce crime d'État. Mais c'est toujours trop peu. Et finalement, ce sont les associations de ces personnes-là qui font tout ce travail déjà de mémoire, de reconnaissance, mais aussi de retour vers l'île. Pour la plupart, ces personnes-là traumatisées n'ont pas pu effectuer leur retour vers l'île ou de réparation au niveau familial. Et du coup, finalement, dans le contexte de politique répressive à Mayotte et on le rappelle, de contexte global de violence d'État au niveau sanitaire, médico-social, etc., on se rappelle finalement de ces années-là dans l'océan Indien, à La Réunion, et comment finalement l'extension du pouvoir répressif sur le corps... Le corps des femmes sur le corps des enfants peut mener à des politiques de déplacement forcé, à des expulsions comme il y a à Mayotte aujourd'hui, mais aussi à la déportation d'enfants, comme ça a été le cas.
Ouais, il faut voir que c'est un scandale et un crime d'État impuni. Hein. La question des enfants de la Creuse, c'est un scandale d'État. C'est, tu disais, 2400 enfants qui ont été... ça s'apparente à de la déportation forcée, concrètement. Hein. C'est des enfants qui, en gros, ma mère me racontait quand elle était petite qu'elle avait peur de la voiture rouge des assistants sociaux, parce qu'elle avait peur, en fait, d'être prise dans la rue et qu'on considère que c'était une enfant en insalubrité ou quoi que ce soit, et donc de l'envoyer en métropole pour travailler dans la Creuse. Parce qu'en fait, c'était des enfants qui disparaissaient concrètement, quoi. Ou des fois, qui avaient l'accord des parents, et on disait aux parents, votre enfant va partir, par exemple, un an, il va revenir toutes les vacances, vous allez le voir tout le temps, ça va le former, ça va l'aider à avoir une meilleure éducation, etc. Et parfois vous avez des familles qui étaient dans des situations terribles en fait, et qui acceptaient en pensant concrètement qu'il y avait des assistants sociaux bien intentionnés en face d'eux. Et cette politique, elle a été menée par le principal instigateur de cette politique, c'est Michel Debré, donc on disait tout à l'heure fondateur de la 5e République, etc., mais qui en plus avait lancé une politique concrète de déportation forcée d'enfants. Et avec ça, avec cette politique, parce que c'était l'expression la plus dure entre guillemets de la politique du Bumidom en général, qui était une politique du bureau des migrations et des outre-mer, et qui était un bureau qui était organisé donc par l'État français pour chercher de la main d'œuvre par exemple en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, et l'envoyer en métropole travailler dans des secteurs en tension. Il y a un lien total en fait avec ce on pourra discuter aujourd'hui sur la loi immigration, mais c'est incroyable. Je veux dire, ces gens-là ne se rénovent pas, quoi. Ils reprennent toujours les mêmes méthodes, les méthodes les plus criminelles possibles. Darmanin, c'est vraiment l'enfant spirituel de Debré sur cette question-là. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes réunionnais comme Ziska Khan, comme Daniel Warraud, qui étaient les premiers à dénoncer ce contexte, dans un contexte où le maloya, qui est la musique traditionnelle, y compris des esclaves à La Réunion, et qui était le principal secteur musical, on va dire, qui dénonçait les enfants de la Creuse et de Bumidom, était interdit. Jusqu'en 80, il faut savoir que le maloya était interdit. C'était une musique... aujourd'hui, on a des concerts, Daniel Warraud, il y a des pages du Monde sur lui, etc., etc., mais il n'avait pas le droit, en fait, de... Il faisait ça dans les cabars, dans des endroits qui étaient clandestins de musique, en fait, qui était interdit. Et ça, c'est un point important à voir, parce que c'était le principal vecteur de musique politique contre le gouvernement français. Et je répète encore une fois, mais c'est important à voir que le crime des enfants de la Creuse est un crime qui reste encore aujourd'hui impuni. Il y a encore des familles qui sont arrivées il y a quelques semaines à La Réunion, pour la première fois, qui ont touché le sol de La Réunion pour la première fois depuis leur exil forcé, et qui ont retrouvé leur île. Et ça, c'est des conséquences psychologiques sur la vie, non seulement d'une génération, mais de plusieurs générations aussi, en fait, parce que c'est l'arrachement forcé de sa terre.
Oui, et puis nous, on est finalement les héritières et les héritiers de cette histoire-là, et de voir qu'aujourd'hui Marine Le Pen est accueillie avec du maloya à son arrivée à La Réunion, c'est une déchirure extrême, et le recul du communisme à La Réunion, etc., etc. Mais il y a aussi, comment cette espèce de... de main de l'État sur, sur nos vies, sur nos corps, sur nos histoires, qui fait très mal, et aussi dans la gestion finalement très genrée, c'est-à-dire que les femmes étaient mises à sténodactylographie, et, etc. Et puis les motifs, c'était... c'était bien, vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos propres enfants, c'est vous en faites trop, etc. Et c'est des mots qu'on a retrouvés avec Sarkozy, qu'on retrouve encore aujourd'hui avec Macron, qui veut encore policer le ventre des femmes africaines, qui l'a dit plusieurs fois, que le problème finalement c'était la surpopulation, et qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le discours de l'extrême droite, qui petit coucou à Hugo Clément, qui parle de migration climatique, etc. Comme si le problème finalement c'était, que je rejoins ce que disait le camarade tout à l'heure, qu'une question de moyens, finalement, l'immigration. C'est qu'il y en a trop, et on n'est plus à gauche sur une question de non, ça, c'est une politique qui ne devrait pas être. On est sur comment on la met en place de la manière la plus humaniste possible, et là ça glisse.
C'est clair.
Oui, j'allais dire sans transition, mais finalement avec les éléments de langage qui reviennent, notamment autour du... des métiers en tension. On va parler dans cette seconde partie de la loi asile et immigration, donc qui finalement a été renvoyée à l'automne par la première ministre, faute de majorité au Parlement, même si voilà, une loi issue de la droite et des Républicains, concoctée par Ciotti et Retailleau et En Marche également, donc je pense que le combat est loin d'être fini. On peut peut-être dégager sur cette proposition de loi Darmanin deux grands axes. Je vous fais écouter un premier son.
L'objectif, c'est quoi? C'est de dire non à la loi Darmanin. Une loi qui a pour objectif de criminaliser toutes et tous les immigrés. Une loi qui a pour objectif de donner plus possible des OQTF, des IRTF, des assignations à résidence, de construire plus de centres de rétention. Et cette loi-là, on la condamne. C'est une loi raciste. Ce n'est pas une loi qui donne une porte de sortie aux immigrés. C'est une loi dans laquelle c'est dit métier en tension, régularisation des titres de séjour, métier en tension. C'est quoi les métiers en tension? Métier en tension est égal à l'esclavage moderne. Vous devriez accepter de faire ce que les autres ne font pas. C'est la réalité. Vous devrez accepter de faire ce que les autres ne veulent pas. Et ça, nous, on ne fait pas. On est là pour une bonne cause. Malgré qu'on voit à la télé tous les jours, aux émissions radio, immigré est égal à délinquant. Discrimination totale, c'est une honte. Si on voit l'État, le gouvernement d'aujourd'hui nous faire la guerre, c'est une honte. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'ils savent, ça veut dire quoi là, une honte? Quand on dit la honte à eux, est-ce qu'ils comprennent? Non, ils ne comprennent pas. Il y a deux ans, en mars 2020, qui a tenu ces pays-là debout? C'est nous. Pendant que tout le monde était chômage partiel, télétravail, nous nous étions où? Dans les entrepôts de déchargement, dans les entrepôts de chargement, dans les chantiers avec les entrepôts, dans les locaux de ménage, dans la restauration, dans les hôtels en train de faire les lits, les chambres. C'est nous, en train de secourir les personnes âgées, les infirmiers. C'est nous qui ont tenu ce pays-là. C'est nous. Et ces pays-là, le gouvernement nous remercie comment? En nous faisant la guerre, en nous insultant, en nous humiliant, en fermant les portes des préfectures, à ne pas régulariser les camarades.
Donc voilà, un premier volet lié au travail, au métier dit en tension, avec la problématique aussi de la définition de ces fameux métiers en tension. Et voilà, avec cette régularisation, on passerait par l'instauration d'un nouveau titre de séjour dévalué et qui est plaqué un petit peu sur la politique de l'immigration choisie.
Peut-être on fait juste un petit récap rapidement sur le projet de loi, pour savoir où on en est. Donc en fait, il a été connu en décembre 2022. Il a été présenté, donc la loi Darmanin a été présentée au Conseil d'État. Ensuite, il est passé à la commission des lois du Sénat qui l'a durci, notamment en mettant des annulations de l'AME, l'aide médicale aux étrangers, sauf en cas d'urgence, la limitation du regroupement familial, etc. Donc déjà que la loi Darmanin était bien pourrie, mais en passant à la commission des lois, on a rajouté une couche. Donc ça a été présenté au Sénat là en mars 2023, mais le Sénat a demandé un report parce qu'il y a eu tout le BINS. Il n'y avait pas de majorité pour les retraites, donc ça, le Sénat a demandé le report. Ensuite, Macron a dit qu'il ferait quand même des petites lois morcelées. Et puis finalement, là, on vient d'apprendre hier par la Borne que ça sera présenté, s'il n'arrive pas à trouver de majorité avec les LR, donc ça promet quand même encore une loi qui sera encore plus dure parce qu'il va falloir faire avec les LR qui, eux, parlent par exemple de quotas, etc. Donc elle dit que s'il n'y a pas de majorité, en septembre, à l'automne, il y aura une nouvelle loi qui sera proposée.
Il y avait même une valse hésitation plus intense parce que entre le moment où le texte a été annoncé comme étant morcelé et coupé en tranches, Macron venait de faire une interview où il expliquait qu'il y aurait une loi unique qui sortirait avant l'été. Et trois jours plus tard, c'est là où la première ministre a annoncé que non, ce serait pas pour maintenant.
Donc, et juste pour rappeler aussi, cette loi, c'est la 30e loi en 40 ans. Qui va justement renforcer le CESEDA. Le CESEDA, donc le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est un code d'exception. Déjà, c'est-à-dire qu'en fait, les nationaux et les étrangers n'ont pas le même droit. Et c'est un code qui est issu aussi de l'idéologie coloniale, puisqu'il reprend, par exemple, ce qui était dans le code de l'indigénat, la limitation de circulation, l'enfermement administratif, la question des représentations, des garanties de représentation, etc. Donc ça, c'est une continuité de l'idéologie coloniale qu'on retrouve donc dans le CESEDA. Et donc la loi Darmanin par rapport au métier en tension, ce qu'on entendait tout à l'heure, le militant qui en parlait, en gros, pour faire vite, c'est une carte de séjour d'un an qui va être donnée aux personnes qui ont déjà 8 mois de fiche de salaire, c'est-à-dire qu'elles ont déjà travaillé sans papier 8 mois dans le secteur dit en tension et elles doivent justifier de 3 ans d'existence sur le territoire. Et donc, les métiers en tension, ça c'est une liste que l'État va organiser avec les patrons pour savoir quels sont les métiers en tension. Donc, par exemple, en ce moment, la restauration n'est pas dans la liste des métiers en tension, bizarrement, alors que c'est quand même rempli de personnes sans papier. Et pour avoir ensuite, à l'issue donc de cette année de carte de séjour métiers en tension, pour pouvoir avoir une carte de... pluriannuel, comme on dit, il faut maîtriser le français. Donc ça, c'est un nouvel élément qui est hyper important, on en reparlera tout à l'heure, et en plus, décrocher un CDI. En gros, ça veut dire impossible, en fait. Donc ça veut dire que là, on est effectivement dans une immigration jetable, donc c'est un peu... comme avant, quoi, les années 60, quand on faisait ramener des travailleurs étrangers pour construire la France, les infrastructures, etc. Et ensuite, on s'attendait à ce que les travailleurs repartent chez eux. Et voilà. Donc, moi, c'est exactement dans le même esprit. Et il y a un autre titre de séjour dont on entend moins parler, parce que, bon, ça concerne... pas uniquement effectivement les métiers précaires, c'est la question de la carte d'un séjour pluriannuel dans les métiers de la santé. En fait, il faut savoir, il y a énormément de médecins étrangers qui travaillent en France et qui sont précarisés, qui n'ont pas les mêmes salaires, qui n'ont pas les mêmes statuts, etc. Et donc, en fait, là, dans le domaine du soin, donc c'est l'intention du gouvernement, là, c'est de pallier au délabrement du système de santé, sans répondre aux revendications des personnels de santé, mais en allant chercher des médecins étrangers, c'est-à-dire en leur donnant une carte pluriannuelle et qui va les maintenir, comme aujourd'hui, dans une précarité parce que, par exemple, elle ne va pas reconnaître leur diplôme. Il n'y aura pas de reconnaissance de diplôme. Donc ça signifie, en fait, que cela encore, ce sera pour des salaires moindres et des postes spécifiques, de la mobilité sur l'ensemble du territoire. Et moi, ça, c'est un truc qui nous fait penser quand même que, là encore, la France, c'est quelque chose aussi d'impérialiste parce que c'est... c'est des personnes qui vont venir essentiellement d'Afrique subsaharienne et du Maghreb et qui manquent déjà de médecins. Et donc la France va profiter donc de personnes qualifiées et pour remplir ces postes-là. Et donc c'est une nouvelle forme de profit en fait impérialiste que voilà au pour la France. Et au même titre que la France, avec son système de France-Afrique, profite des matières premières, elle profite aussi des personnes qui sont qualifiées.
I got my new one.
garde sur la partie métier en tension, pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est que c'est effectivement un dispositif d'exploitation des personnes par le travail, mais que c'est un des points de blocage du point de vue de la droite, c'est-à-dire qu'eux voient ça comme un volet humaniste, justement, un volet progressiste qui leur est insupportable. Ils désignent ça comme de la régularisation massive. Et c'est justement ce qui a fait renoncer, en l'absence de majorité, à présenter ce projet de loi maintenant. Pourtant, dans ce qui était présenté, ça a été décrit, le caractère précaire du titre. Il y avait même eu des annonces de Darmanin sur le fait que le métier ne soit plus en tension, donc ferait perdre le titre de séjour, mais que ça serait assorti d'une mesure d'expulsion. Donc on avait vraiment le caractère systématique de l'expulsion dès qu'on on rentrait plus dans la case qui permettait d'avoir le titre de séjour.
Non, en plus, c'est intéressant à voir parce que dans le contexte de cette loi, il y a une mobilisation importante quand même qui en est ressortie. On écoutait le premier extrait qui est passé. C'est il me semble, Aboubakar Dembélé qui a été en grève pendant près de 15 mois à Chronopost, dans le contexte d'une lutte en fait pour la régularisation des travailleurs essentiels dans des secteurs qui ont travaillé en fait pendant le Covid, qui ont été parmi les secteurs essentiels pour qu'on puisse vivre normalement entre guillemets dans le contexte du Covid. Et ça, je pense que c'est important à souligner l'utilisation que fait l'État français et le patronat, parce qu'on oublie souvent comment la bourgeoisie, le patronat utilise cette question, organise le travail d'une main-d'œuvre bon marché, irrégulière, etc. Aussi, parce qu'on parle de la situation de travail avec des fiches de paie, etc., mais on ne parle pas en plus de la situation de gens qui ne travaillent pas avec des fiches de paie parce qu'ils ne sont pas dans des conditions de travail informel. Beaucoup, par exemple, dans le bâtiment, on a vu beaucoup le scandale qui a été démontré sur la construction du projet des JO de Paris, par exemple, qui en sont une démonstration claire et concrète de l'utilisation de la main-d'œuvre bon marché, quasiment gratuite, en fait, dans le contexte de secteurs entre guillemets en tension, qui sont en plus des secteurs qui vont le plus pâtir. D'ailleurs, on a beaucoup insisté sur ça avec RP, avec Révolution Permanente, mais qui vont d'autant plus pâtir en fait de la réforme des retraites, parce que c'est des secteurs en fait qui travaillent avec des carrières hachées, qui sont arrivés parfois en France plus tard dans leur carrière avec une partie de leur travail dans leur pays d'origine qui n'est pas reconnu, ou qui sont arrivés en France en fait dans des métiers dans lesquels ils ont travaillé de manière informelle, qui n'ont jamais eu de reconnaissance et qui en fait vont pas avoir de retraite, qui vont travailler toute leur vie jusqu'à 67 ans, vont avoir une retraite ridicule, minimale. Et je pense que dans ce sens-là, il y a un point de contexte important à prendre en considération, qui est que l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a reculé temporairement, a suspendu au début la réforme, parce que de base il voulait la passer dès il y a deux mois, l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement a reculé sur la réforme, c'est parce qu'il était en train de gérer une crise de régime profonde qui était ouverte par la mobilisation contre la réforme des retraites, qui l'a obligé à passer par le 49-3, qui l'a fait retrouver avec pas un ministre qui se retrouve sans une casserolade et des mobilisations massives dans toute la France de manière spontanée, etc. Et il y a une continuité totale en fait entre cette mobilisation contre la réforme des retraites qu'on voit en France et la mobilisation contre la loi de Darmanin. Enfin, au même titre qu'on disait tout à l'heure que s'il y a un contexte politique particulier qui pourrait permettre de créer un véritable rapport de force contre la réforme, contre l'opération Wambushu, il y a un contexte politique particulièrement favorable pour nous pour mettre une crise, pour infliger une crise au gouvernement. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont dit juste après les 100 jours d'apaisement, on va remettre en place la réforme, la loi immigration, on va la reconstruire, après avoir dit qu'ils allaient au final la passer sous forme de petites lois séparées, ensuite on la remet en bloc, ah non finalement on la passe en novembre. Enfin, ils tergiversent beaucoup parce qu'il y a une crise politique qui ne lui permet pas de faire ce qu'il veut. Et ça, je pense que c'est un point d'appui très important pour nous pour réfléchir à la suite de la séquence.
Oui, sans perdre de vue que ce genre de loi, comme on le disait à l'instant, il y en a déjà eu une trentaine. Donc malheureusement, c'est que si c'est pas pour demain, c'est pour après-demain, et qu'en fait, c'est une lutte qui est permanente. Ouais. Si je peux me permettre ce trait. Pour continuer sur la loi Darmanin, il y a cet aspect donc métier en tension, effectivement, donc sur l'exploitation. Il y a tout un volet qui consiste dans cette loi à soumettre les personnes et qui relève d'une obsession assimilationniste. On parlait de la maîtrise du français. Pour le moment, la loi pour la régularisation demande à ce que les personnes suivent des cours de français. Si on le prend du point de vue du gouvernement, soit en voie d'assimilation. Aujourd'hui, cette loi proposerait que il faille justifier de la maîtrise du français, donc que les personnes aient achevé leur assimilation. Donc la maîtrise du français avec des examens à la clé pour le vérifier. Ça ne s'applique pas seulement sur la question du français, ça s'applique aussi sur la question des principes de la République. Il y a tout un volet important là-dessus qui est de dire on va demander aux personnes de respecter les principes de la République et de rendre possible le refus, le retrait ou le non-renouvellement de certains titres de séjour en fonction du comportement des personnes. La description qui est donnée donc de se respecter les principes est suffisamment floue pour que ça permette de faire des retraits administratifs complètement arbitraires ou des refus complètement arbitraires et ça accroît en fait le pouvoir des préfectures et il ne faut pas perdre de vue dans le contexte d'islamophobie dans lequel on est que ce point de loi, respecter les principes de la République, ça vise les musulmans et les musulmanes qui sont encore plus ciblés par ce projet. Donc pouvoir perdre son titre pour des questions de comportement, on imagine ce que ça englobe vu ce qui s'est passé en France depuis 2001 et depuis 2015.
Oui, on l'a vu aussi à l'école avec la séquence post-Charlie et comment finalement le fait d'adhérer ou pas aux principes et valeurs de la République, finalement c'est des frontières qui sont extrêmement mouvantes et utilisables par les forces de répression. Et avec les dissolutions d'associations musulmanes, avant qu'on parle de dissolution de médias indépendants, etc. Et on l'a vu avec la loi séparatisme, le plus récemment, enfin l'exemple... le plus récent, et pour être renseigné sur les questions d'éducation, etc., on apprend aussi aux profs à être des nouveaux flics, à se fliquer soi-même, à fliquer ses collègues, mais à fliquer surtout les élèves, à chercher dans les comportements, finalement, tous les interstices possibles et imaginables pour pouvoir dénoncer des comportements déviants de la République blanche, laïcarde, etc. Et finalement, l'école est aussi un outil de répression. On le sait parce qu'on est aussi en relation avec des réseaux d'éducation populaire, etc. Mais aussi pour faire en sorte de ne pas accepter les élèves s'ils ne rentrent pas dans le moule. Et on sait très bien que le fait de ne pas être scolarisé, c'est aussi un argument pour ne pas pouvoir être régularisé au niveau des papiers. Donc il y a un glissement tel. On le voit aujourd'hui comment les lois antiterroristes sont utilisées pour la répression des mouvements sociaux. Exactement. On peut se dire que ça va créer un précédent énorme sur lequel on ne pourra pas revenir au niveau constitutionnel, parce que bon, vu la tête du Conseil constitutionnel, voilà, ça va être très compliqué justement de pouvoir ensuite argumenter d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, mais aussi social, parce que, bon, on rappelle ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, mais l'abandon de la gauche sur ces questions-là, dès qu'elle touche justement à la République, en passant par le volet laïcité, qui est quand même celui qui est le plus mis en avant en ce moment, mais aussi utilisé comme un outil de répression, c'est-à-dire que c'est l'adhésion aux principes et aux valeurs de la République, dont la laïcité, en général, c'est comme ça que c'est formulé. On sent bien qu'à gauche, il y a encore une frilosité énorme sur cette question, et voire une adhésion et une complicité, finalement, on pourrait plus appeler ça de la complicité, plutôt autre chose, qui va faire qu'encore une fois, on utilise comme laboratoire les personnes qui sont les plus précarisées dans le système juridique français, mais que finalement, à qui ça peut s'appliquer ensuite ce genre de choses? C'est-à-dire, on avait déjà eu sous Hollande l'idée de déchéance de nationalité, de double peine qui revient, etc. Avec Darmanin, on peut s'attendre à tout.
Non, ouais. C'est clair, il y a une continuité totale de l'utilisation de l'appareil aujourd'hui qui est utilisé contre les organisations. C'est parti, je pense qu'un bon point de départ, c'est par exemple la dissolution du CCIF, qui était une démonstration claire et concrète d'un ensemble de mécanismes juridiques qui ont été ensuite utilisés par exemple pour tenter la dissolution par exemple du collectif Palestine Vaincra. C'est-à-dire sur des bases en plus fumeuses qui ont en plus été par la suite retoquées, puis suspendues pour le moment, etc. Mais voilà, il y a vraiment une continuité totale, et c'est en ça que je pense qu'il y a, je suis d'accord totalement avec Lucie sur le fait qu'il y a une complicité totale d'une partie de la gauche avec cette partie, avec cette question-là, parce que c'est cette question de valeur de la République, de critères de valeur de la République, etc. C'est quelque chose qui est utilisé actuellement comme un mode d'expérimentation sur les organisations musulmanes ou qui défendaient en fait les gens visés par l'islamophobie en France, etc. Et qui a permis en plus la dissolution de mosquées, je veux dire la fermeture de mosquées, pardon, la dissolution d'organisations associatives, etc. Et qui aujourd'hui est utilisée contre des organisations politiques, qui a été utilisée contre Palestine Vaincra, qui a failli être utilisée, mais c'était un peu too much contre notre révolté, mais qui pour nous doit nous préoccuper en profondeur, parce que ces choses-là seront aussi utilisées contre la gauche. Ce qui justifie aujourd'hui les attaques, quand par exemple une partie de la gauche, et y compris l'extrême gauche, parle de non, nous on défend pas les religions, voilà, on n'est pas des curés, etc., etc. C'est pas une question de défendre les religions, c'est une question que c'est pas à l'État de décider qui croit en quoi, et que ces méthodes seront ensuite utilisées contre nous. Et c'est pas voir en fait la continuité de l'appareil de répression de l'État à ce niveau-là qui va être profondément renforcé.
Alors, je suis entièrement d'accord. Mais du coup, justement, cette loi séparatisme, elle n'a pas mobilisé la gauche. Ni même les militants, hein, dits de gauche. Hein. Et donc elle a touché, donc elle a été, comme on le disait, faite pour, contre les musulmans et les musulmanes. Et voilà, et puis aujourd'hui elle touche les mouvements écolos. Il fallait vous bouger avant, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que...
Ça touche tout le mouvement associatif, à vrai dire. Les associations maintenant sont sous la menace de cette loi.
Ouais, Darmanin parle d'éco-terroristes, là, avec menace de dissolution, d'assaut comme les soulèvements de la terre.
Et donc le respect des principes de la République, juste pour dire, donc qui est dans la loi Darmanin de asile et immigration, elle était au départ dans la loi séparatisme. Donc elle a été enlevée de loi séparatisme pour être mise ici. Voilà, donc évidemment pour viser clairement les personnes musulmanes.
Bavure policière, arrestation massive, coup de crosse dans les gencives, politique répressive, la cible. Pseudo-terroristes, clando-parasites, squatteurs anarchistes, cancer de l'État par leur couleur de peau, leur religion, leurs idées, ils font tâche dans le troupeau. Innocents en prison, en centre de rétention, la détention rend locaux comme les coups de bâton d'un maton. Un tas de vermines à détruire entre quatre murs vides, les épuisent et brisent leurs cellules grises. Ils créent un monstre intérieur pour cacher leurs erreurs. La terreur en prime time au JT du 20h. Alors la parano est présente, stressante, pesante. Ça part dans tous les sens, naissance du désordre. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroristes dans la cible, clando-parasites dans la cible, voilés féministes dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Pseudo-terroristes dans la cible, clando-parasites dans la cible, squatteurs anarchistes dans la cible, un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Stigmatisation du rhum, obsession du voile. Retour au pogrom, les fachos font leur comeback. Coup de batte. Peu importe ton sexe, tu finis dans la scène comme un militant du FLN. Rien de nouveau dans notre douce France, et le voile devient symbole de résistance. Les drames passent sous silence et on gratte les criminels. C'est pas un scoop petit, ça remonte à des siècles. De Napoléon à Papon, de Mitterrand à Sarko. Politique violente de droite à Chegot. Le méchant loup est noir, il porte une beubare. Il vit en caravane, n'a pas de paplard. Un prolo en marche à Nara éradiqué, un sale connard, cancer de la société. C'est ainsi qu'ils opèrent, frère, tuer le bouc émissaire, victime d'une injustice orchestrée par les hautes sphères. Pseudo-terroristes dans la cible, clando-parasites dans la cible, voilés féministes dans la cible, un tas de vermine. mine à détruire entre quatre murs vides. Pseudo-terroriste dans la cible. Clanto-parasite dans la cible. Squatteur anarchiste dans la cible. Un tas de vermine à détruire entre quatre murs vides. Victimisation.
Victimisation.
Provocation.
Provocation.
Appelle ça comme tu veux, je relate juste l'indignation.
L'indignation.
La cible. La cible.
Ouais. Si on continue un petit peu l'exploration de la loi Darmanin, il y a tout un volet, donc après l'exploitation, après le fait de soumettre les personnes, tout un volet sur l'expulsion et de renforcer les expulsions et les enfermements. Alors, en faisant sauter certains freins légaux qui existent encore, et en s'attaquant par exemple à des catégories de personnes qui sont protégées par la loi, par exemple des parents d'enfants français, des résidents en France depuis plus de 20 ans, qui ne peuvent pas être expulsés aujourd'hui, et qui deviendraient expulsables. Et il y a aussi un petit peu à la manière du respect des principes de la République, il y a tout un chapitre sur la menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. À nouveau des notions vagues pour permettre toutes sortes d'interprétations. Et de la même manière, cette menace grave permettra de retirer ou de ne pas renouveler un titre de séjour de la même manière, donc de contourner en fait des catégories protégées de l'expulsion. Sachant que le nombre de recours, par ailleurs, que prévoit la loi, est divisé par 3.
Et partout, Darmanin, il s'est vanté, pour satisfaire l'extrême droite, il s'est vanté de dire qu'il allait remettre la double peine. Sauf que la double peine n'a jamais été enlevée. Je ne sais pas d'où il sort ça. Et donc, en fait, les personnes étrangères sont toujours doublement sanctionnées et sont toujours expulsées. La double peine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a fait de la prison, si on est étranger, on peut être expulsé dans son pays d'origine. Et sauf que depuis la gauche là, de Mitterrand, il y a eu des catégories protégées. Parce que c'est un truc qui existe depuis 1945, en fait, la double peine. C'est de virer les étrangers quand ils font une connerie, contrairement aux nationaux. Donc, à l'époque de Mitterrand, ils ont mis en place des catégories protégées. Et aujourd'hui, ce que propose Darmanin, c'est de les faire sauter, tout simplement, pour pouvoir expulser davantage. Et du coup, quand les personnes ont fini leur payer leur peine, comme on dit, elles pensent sortir. Et en fait, elles se retrouvent avec des agents de la PAF, de la police aux frontières, qui les emmènent au CRA. Et là, donc elles restent au CRA et leur dossier donc est en instance pour pouvoir les expulser. Et on a régulièrement des personnes qui ne sont pas du tout expulsables, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui ont des enfants, il y a des personnes qui sont là depuis une vingtaine d'années avant l'âge de 13 ans, etc. Donc qui sont normalement protégées. Et donc même si on n'arrive pas à les expulser, elles sont quand même enfermées. Et par ailleurs, elles peuvent être enfermées si la préfecture décide arbitrairement que la personne représente une menace à l'ordre public. Donc aujourd'hui, en fait, on peut expulser les étrangers et on le fait. Et c'est c'est de plus en plus le cas, puisqu'il y a vraiment une boucle, un enfermement entre CRA et prison qui est un circuit quasi fermé. Et donc ça, c'est vraiment dans la criminalisation des personnes. Et tu veux rajouter un truc sur...
Oui, juste sur l'enfermement en CRA. Pour vous donner un chiffre, à Toulouse, il y a plus de 30% des personnes qui ont été enfermées au CRA de Toulouse en 2022 qui sortaient de prison. Donc ça, c'est la première cause d'enfermement au CRA de Toulouse, c'est de sortir de prison. Ça illustre ce canal de circulation entre la prison, le CRA, et on pourrait parler aussi du CRA vers la prison.
Voilà, donc toutes les luttes des années 70-80 contre la double peine, elles sont aujourd'hui en train d'être remises en question par cette loi de Darmanin. Voilà. Plus largement, l'État, enfin, cette loi veut criminaliser les personnes sans papier qui sont visées par une mesure d'expulsion en projetant de les inscrire systématiquement dans le fichier de police des personnes recherchées. Mmh. Et également, il y a eu aussi au niveau de la coercition aussi, il y a un article de loi sur la coercition, sur les empreintes et la photo. Est-ce que c'est pas au niveau européen ou c'est dans la loi?
De mémoire, c'est dans le projet de loi qui était de forcer les photographies et les prises d'empreintes à la frontière et dans les centres de rétention.
C'est ça. En les attachant, par exemple.
Là, c'est vrai, donc c'est le volet qui concerne les mesures d'expulsion du territoire, la criminalisation du statut d'immigré. Je vous fais écouter un petit son qui résume également ce qu'on est en train de dire.
Le fait que, déjà, c'est une loi. C'est pas une circulaire. C'est une loi qui va, sur l'ensemble de la législation française, nous porter vers un peu plus d'horreur. Et cette horreur-là, elle s'exprime notamment vers un nouvel arsenal de répression et d'expulsion, qui s'exprime en différents points. Moi, il y a un des aspects de cette loi qui, je trouve, est particulièrement éloquent, qu'il y a une partie du texte qui autorise policiers et gendarmes à prendre photos et empreintes d'une personne étrangère, même si celle-ci, elle le refuse, et de le faire donc physiquement. Donc il y a écrit dans le texte sans le consentement de la personne. Donc ça, lit sur un texte noir sur blanc, déjà on sent un peu que ce qui peut se passer derrière, mais il faut s'imaginer du coup ce que ça peut être dans des gardes à vue, dans des commissariats dans lesquels déjà il y a énormément de violence policière, ce qui peut se passer si maintenant il y a un texte qui les couvre dans le cas où ils le font. Beaucoup parlé des OQTF, des obligations de quitter le territoire. Dans cette loi, il y a des nouvelles des dispositions, des obstacles à tout ce qui peut permettre de faire lever un OQTF. La durée pour intervenir est plus courte, les critères pour la faire lever sont réduits. Il y a dans cette loi un ensemble de critères qui feront que le renouvellement ou l'acceptation d'une carte de séjour sera plus difficile. Pour les cartes de séjour 1 an, les cartes de séjour 4 ans et les cartes de séjour 10 ans. Elles pourront désormais être refusées au renouvellement ou en première carte s'il n'y a pas de respect des valeurs de la République. Donc, comme durant la loi séparatisme, c'est n'écrit nulle part, évidemment, ce qu'ils entendent par ça. Donc là aussi, ça laisse énormément de choses. Également, trouble à l'ordre public. Donc voilà, la simple participation à une manifestation interdite pourrait être un critère pour exclure une personne, pour expulser une personne.
Je voulais savoir d'ailleurs qui prenait la décision de l'expulsion.
C'est la préfecture. L'administration.
C'est une décision administrative, donc c'est le plus souvent la préfecture, par exemple pour les obligations de quitter le territoire. Ça peut être aussi le ministère, ça peut être le ministre. Dans des cas beaucoup plus limités, mais par exemple dans le cas de l'imam Kiyousen, c'était un arrêté ministériel d'expulsion. Donc c'est le ministère qui avait décidé de l'expulser. Mais la très grande majorité des cas, ce sont les préfectures et on va dire les deux tiers, ce sont des OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui sont la mesure qui est là pour justifier l'enfermement puis l'expulsion.
Donc il y a déjà tout un arsenal en fait de disponible.
L'arsenal, il est très très complet, oui.
Oui, d'ailleurs les avocates et les avocates sont obligés de se former régulièrement pour pouvoir suivre toutes les nouveaux articles répressifs qui s'empilent. Donc ça c'est sûr. Et leur objectif c'est de faire une loi par an en fait. Hein. Là c'est la loi Darmanin. 2018 c'était la loi Colomb qui augmentait le temps de rétention et en fait ça va être ça tout le temps en fait.
Il y a juste eu une suspension avec le Covid, mais voilà, il y a l'idée de repartir sur un rythme effréné de lois. Ce qu'il faut voir en parallèle des lois, c'est l'augmentation des places en rétention administrative et de l'augmentation des places en prison. C'est-à-dire que quelle que soit la future loi à venir, aussi affreuse soit-elle, pendant ce temps-là, le nombre de places en CRA augmente et il va atteindre 3000 places d'ici 2027 et c'est un triplement par rapport à 2017. On va passer de 1000 à 3000 places en 10 ans. Et pendant ce temps, on a aussi des constructions de nouvelles prisons, et l'objectif c'est d'avoir 15 000 nouvelles places d'ici 2027. Donc c'est que l'enfermement soit judiciaire ou administratif, il est en train de continuer de prendre une ampleur spectaculaire.
Juste un dernier chiffre, on enferme 50 000 personnes par an.
Oui, en rétention administrative.
En rétention administrative, ouais. Du coup, juste un mot peut-être sur la mobilisation samedi 29 avril. Donc, juste pour reparler rapidement de l'AG, donc, qui s'est organisée depuis à peu près 2 mois contre la loi Darmanin. Vous pouvez avoir les infos sur la page Facebook. C'est AG Toulouse contre les lois anti-immigration pour pouvoir suivre cet AG. Il y a régulièrement des réunions qui... Elle est constituée de collectifs, de personnes, donc elle est évidemment ouverte à toutes et tous, donc bienvenue. Et ça se passe régulièrement au CASA, 36 rue d'Empart, à Toulouse, vers Arnaud B, souvent le mercredi vers 18h30. Et donc là, samedi 29 avril, c'est une grosse mobilisation nationale. Et donc nous, à Toulouse, on voilà ce qu'on a dit tout à l'heure, on fait un rassemblement à 15h à Arnaud B. Voilà, et cet AG, on a fait beaucoup de choses au sein de cet AG. Il y a eu déjà dans la manif des retraites, on a fait les manifestations pour faire connaître la loi, cette loi Darmanin, des points fixes, des interventions dans les AG. On a aussi organisé des rencontres, des prises de parole.
Et cet AG, elle a aussi un calendrier propre qui est disponible sur ses réseaux sociaux et on vous invite d'ailleurs ce soir au Mirail, au bâtiment occupé du Gai Savoir, à la ZAM, la zone autogérée du Mirail, pour des concerts de soutien justement à cet AG qui se mobilise aussi avec les mineurs isolés, avec d'autres collectifs de squat, etc. Et qui a besoin de soutien aussi financier pour continuer ce genre d'action et qui prévoit dans quelques temps d'organiser une fête de quartier à Arnaud Bernard aussi, une sorte de fête bal populaire contre les politiques répressives. Et cet AG, c'est aussi le moment pour nous en fait de créer un espace au sein du mouvement social et qu'on se retrouve le samedi à 15h à Arnaud Bernard pour se mobiliser contre la loi Darmanin, mais aussi contre...
Wambushu.
Oui, contre l'opération à Mayotte également, et le soir contre Macron. Du coup, c'est pour ça qu'on est présent aussi au sein des mouvements sociaux et qu'on sera là le 1er mai dans un cortège.
Après, c'est important de voir aussi que cet AG qui est organisé, c'est aussi le lieu où tous ceux qui veulent s'opposer à cette loi, qui veulent s'opposer à l'opération Wambushu, doivent venir pour qu'on organise vraiment en fait une véritable mobilisation sur ces questions-là, quoi. Je pense que c'est important de venir la construire pour tous ceux qui veulent s'y opposer, parce que c'est le moment de mettre un frein à Darmanin, à Macron et à l'ensemble de son projet.
On parle régulièrement de la régularisation de tous les sans-papiers. Je voulais connaître la différence entre la régularisation et la naturalisation.
La régularisation, c'est l'obtention d'un titre de séjour tout en restant étranger. La naturalisation, c'est difficile à dire, c'est le fait de devenir français. Donc voilà, les conditions ne sont pas les mêmes. Et effectivement, la régularisation, c'est quelque chose de qui sera plus fréquent, forcément, et qui peut être demandé à plus de titres.
Et qui est extrêmement compliqué à obtenir. Il faut savoir que c'est le système, c'est quand même de mettre des freins à tous les niveaux, la préfecture, en dématérialisant les guichets, de façon aussi arbitraire, en demandant des papiers qui n'ont rien à faire. Voilà, donc ça, c'est... On ne va pas rentrer tous les détails, parce que moi, je ne connais pas tout le système de ce qui est demandé. Mais voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est s'il y a autant de personnes sans papiers en France, c'est parce que l'État français refuse la régularisation et que ça l'intéresse bien d'avoir des personnes corvéables à merci pour les patrons, pour travailler dans les cuisines, les restaurants, voilà, occuper tous les métiers de précarité et sous-payés et les pousser à s'invisibiliser, à ne pas exister dans, voilà, dans l'espace public, à frôler les murs, parce que en fait, être sans papier, c'est être constamment en contact avec la police. Sans arrêt, être voilà, être risque d'être contrôlé, risque d'être emmené en au CRA. Donc ça, c'est une expérience qu'on peut imaginer, voilà, plutôt violente pour les personnes sans papier et qui voilà.
Et on rappelle en plus que cet appareil répressif s'appuie donc sur sa police, sur les préfets, on l'a dit plusieurs fois, mais aussi sur des sortes de corps intermédiaires, que ce soit dans le médico-social ou dans le sanitaire, et notamment avec des médecins qui contribuent activement à collaborer avec la PREF, avec des profs, avec, etc. Enfin, tout un système qui est contre... contre la régularisation des personnes qui sont privées de papier. Mais il y a aussi la question, là on parlait du rassemblement Arnaud Bernard, il y a la case de santé qui est un centre de soins communautaire et qui sera directement impacté par la loi Asile et Immigration, dans le sens où ces espèces d'îlots hors de l'État qui permettent finalement l'accueil inconditionnel des personnes pour pouvoir assurer un suivi médical, pour pouvoir assurer ne serait-ce qu'une consultation aux personnes qui n'ont pas de papier, est directement remis en question par ce genre de loi qui s'inscrit aussi dans la politique sanitaire de Macron, qui consiste à privatiser l'hôpital, à privatiser tout ce qui est privatisable ou qui ne l'est pas encore. Et avec ce qu'on sait du traitement et du soin en centre et en lieu d'informement, notamment au CRA de Toulouse, où certains médecins sont particulièrement connus pour leur cruauté et le fait de pouvoir défouler racisme, islamophobie, etc. sur des personnes qui sont déjà privées de droits, mais on le rappelle encore, présumées coupables, juste du fait de leur situation sociale. Mm.
Ouais, c'est des... dans le CRA de Toulouse et dans tous les CRA, les médecins sont des flics en blouse blanche. Hein. Il y a du refus de soins, des psychotropes sont distribués comme des bonbons pour calmer les personnes, et du coup des suicides sont des personnes se suicident parce que justement elles peuvent avoir accès à ces psychotropes de façon très simple. Et donc, en plus de la violence policière, dont on n'a pas parlé, parce qu'on ne peut pas tout parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les CRA, mais il faudrait une émission à part, sur les violences policières à l'intérieur du CRA. Et il y a aussi donc cette violence médicale qui est, comme je disais, camarade.
Et juste pour ajouter un point sur la régularisation, il ne faut pas perdre de vue que beaucoup de personnes qui sont régularisées vont perdre... leur titre de séjour et vont devenir sans papier. Il y a une fabrique à sans papier du fait des procédures justement qui sont très compliquées, de la dématérialisation, de la difficulté d'accès. Certains considèrent que pour un titre d'un an, du moment qu'on l'obtient, il faut commencer à le renouveler au moment où on l'obtient pour avoir une chance de le renouveler dans les temps. Hein. C'est 10 à 11 mois pour renouveler un titre qui est valable un an.
Et finalement, on s'inscrit dans des violences psychologiques, violences d'État, dans le sens où on est constamment sur le qui-vive, comme on disait tout à l'heure, avec un contact physique direct, mais aussi avec cette violence psychologique qui force à devoir constamment être sur ses gardes et fliquer. Et aussi avec le fait que l'imposition du français, etc., ça fait aussi résonner des choses qui ont déjà eu lieu avec le projet Molière de... Il me semble que c'était Pécresse sur les chantiers pour les travailleurs, mais qu'ils soient étrangers, extra-européens ou pas, et de voir que finalement les valeurs et les doctrines qui sont promues, enfin qui sont... le cœur de l'extrême droite, en fait, sont déjà présentes dans cette loi, et que finalement, il ne faut pas attendre de 2027 pour se mobiliser contre des lois d'extrême droite, parce qu'elles sont déjà en face de nous, et que finalement, le report à l'automne, il faut que ce soit plus pour nous le moment de mobiliser, le moment de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et pas une espèce de pseudo-victoire qui, en fait, juste peut-être, c'est totalement possible, en fait, que ça épuise le mouvement social sur cette question-là, que l'été passe et qu'on arrive avec une majorité pour LREM qui n'aura pas besoin d'appliquer un 49-3 sur la loi immigration. Et il y a aussi la possibilité, en fait, de faire appliquer certains de ces principes par décret et de ne pas pouvoir avoir des espèces d'outils institutionnels prévus, etc., pour les contrer. Et donc, d'où l'importance d'avoir une vigilance de chaque instant sur ces questions.
Voilà. Ouais, la seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vu le planning, c'est une loi qui ne passerait pas au cœur de l'été quand il n'y a personne et qu'au moins il y aura matière à se mobiliser à la rentrée.
Vous souhaitez rajouter quelque chose au nom de l'AG ou d'un de vos différents collectifs ?
On peut donner les contacts de notre collectif, de nos collectifs. Donc Toulouse Anticra, on a un blog, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Mastodon. On a un numéro de téléphone, on a des mails, on est hyper organisé. Alors, et on est même sur Telegram. Alors, mais bon, c'est pas mal de passer par le blog, c'est toulouseanticra.noblogs.org. Donc il y a tous les témoignages, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a tous les témoignages des personnes qui sont enfermées et qui racontent ce qui s'y passe. Notamment, justement, si mon camarade parlait de la violence psychologique, et ben, il faut lire vraiment, il faut lire ce que les personnes disent de ce qu'elles vivent à l'intérieur des CRA et être sans papier, ce que ça fait. Voilà. Pour notre collectif.
Ouais, bah pour Révolution Permanente, on a le site révolutionpermanente.fr, vous pouvez suivre, où on relaie beaucoup pareil, d'informations sur Wambushu, sur la loi Darmanin et de manière générale sur le mouvement social actuel. Et puis localement, on a la page Instagram ou Twitter du Point Levé de Toulouse ou la page Facebook de Révolution Permanente Toulouse. Voilà, vous pouvez suivre directement pour en savoir plus.
Et pour le comité Vérité et Justice 31, on est présente sur Facebook, Instagram, Twitter. On a aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez adresser en fait des témoignages de violences policières, de contrôle aux faciès et on va dire tout ce qui concerne la répression sur la région toulousaine, qui est comité-vérité-justice31@riseup.net. Et nous aussi, ce qui nous tient à cœur sur la date du 29 avril, c'est que ce sera l'anniversaire des 3 ans de la mort de Dean Benyaya, qui a été tué au commissariat d'Albi le 29 avril 2020 et qui est mort étouffé dans son vomi dû à la fois aux violences de la police qui n'ont pas regardé son dossier médical, qui l'ont laissé en hypothermie pendant la nuit et qui n'ont pas prodigué de soins, etc., mais aussi à l'hôpital qui est complètement en faute ici. Et voilà, on voulait saluer sa mémoire et ses parents.
Merci. Donc je rappelle une dernière fois le rassemblement contre l'opération Wambushu et les lois Darmanin qui aura lieu donc ce samedi 29 avril, place Arnaud Bernard à 15h. Merci à tout le monde d'être venu.
Merci beaucoup.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Loi de fer, loi Jox, loi Pasqua ou Debré, une seule logique.
La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines.
Un État raciste ne peut que créer des lois racistes.
Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des jours de fête.
Régularisation immédiate de tous les immigrés sans papiers et de leurs familles.
Abrogation de toutes les lois racistes régissant le séjour des immigrés en France.
Nous revendiquons l'émancipation de tous les exploités de ce pays.
Qu'ils soient français ou immigrés. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi ?
Ça y est, ils ont décidé en face de nous faire la guerre. Ils ont déclenché une première arme, c'est le 49-3. Il y en a une autre qui va venir tout de suite après. C'est l'arme de la division, c'est l'arme du racisme.
On veut ceux qui bossent, on veut pas ceux qui rapinent.
Ils vont le faire comment ? Ils vont déclencher le projet de loi Darmanin.
Il y a donc la création d'un titre de séjour pour tout étranger en situation irrégulière qui occupe un métier en tension.
C'est quoi les métiers en tension ? Métier en tension était qu'à l'esclavage moderne.
On a besoin d'étrangers pour travailler, pour répondre à la demande de main-d'œuvre. Nous voulons, c'est-à-dire une sorte d'immigration choisie que nous proposons.
Une loi qui est pour objectif de donner plus possible des OQTF, des IRTF, des assignations à résidence, de construire plus de centres de rétention.
J'ai accepté un amendement, M. Ciotti, qui vise à doubler le nombre de places dans les centres de rétention administrative.
Une loi qui a pour objectif de criminaliser toutes et tous les immigrés.
Qui disait, voilà, c'est une régularisation de la cité sans papier. C'est pas du tout, pas du tout ça.
C'est une loi raciste.
Alors il faut qu'on soit massivement dans la rue aux côtés des immigrés, aux côtés des sans-papiers, aux côtés de toutes les personnes qui subissent aujourd'hui le racisme.
Pas de justice, pas de paix.
C'est rien, c'est la rue, tu nous as pas vus mais tu nous entends venir. C'est rien, c'est la rue, t'aurais pas dû t'attoucher des points sensibles. C'est rien, c'est la rue, y'a comme un goût de piment au fond, je t'ai saisi. C'est rien, c'est la rue, tu nous as pas vus, mais tu sens que c'est la magnifique.